Et ça me conduit à parler de notre invité ce soir, hein, Yves Langevin, qui est planétologue. Voilà, vous en avez une petite idée ici. Il m'a précisé, parce que je lui ai dit, mais planétologue, quelle planète ? Je sais qu'il y a des collègues qui ont beaucoup travaillé sur Saturne, d'autres sur Mars, par exemple, Jean-Pierre Bibring. Non, la spécificité française, me dit-il, c'est la polyvalence. Donc Yves Langevin est un planétologue. Il est directeur de recherche au CNRS, plus spécifiquement directeur de l'IAS, Institut d'astrophysique spatiale. Et durant sa carrière, il a été le plus fréquemment impliqué dans les processus de préparation de programmes. Vous allez voir, on va comprendre que préparer un programme spatial, ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes. Et il a fait ce travail au CNES, évidemment, et à l'ESA, hein, l'Agence spatiale européenne. Voilà, mais si je devais préciser un tout petit peu plus sa spécialisation, c'était l'évolution, l'étude de l'évolution des surfaces des objets du système solaire, d'abord par le biais de la modélisation, et puis bien sûr, quand on modélise, on se rend compte qu'il faut quand même avoir des données sous la main, donc ça l'a conduit à faire ce travail qu'on va entendre aujourd'hui. Mais merci. Merci.
Bon, alors, je vais essayer de vous parler pas trop vite, parce que ça, c'est un peu mon petit défaut, effectivement, de la situation actuelle de l'exploration planétaire en Europe, que j'appelle un âge d'or, et vous allez voir que par rapport à des périodes qu'on a connues dans le passé et à ce qui se passe pour d'autres thématiques, on est vraiment dans une très bonne situation, même s'il y a des nuages à l'horizon, dont certains vous sont sûrement connus. Alors, je vais vous présenter un peu cette histoire d'un point de vue qui est le mien, qui a été impliqué depuis 1973 dans cette affaire. J'étais l'un des acteurs, il y en avait beaucoup, mais j'ai été souvent bien placé pour voir de près à quel point il fallait parfois de la chance ou des concours de circonstances pour arriver à un résultat aussi remarquable avec des contraintes aussi fortes. Alors d'abord, un petit mot sur, finalement, comment on a envie de construire une stratégie d'exploration planétaire. On démarre avec une situation où c'est l'astronomie qui vous montre les planètes, les 8 planètes connues des anciens, et puis à un moment, il a été question d'une 9e, mais elle a disparu en cours de route. Alors comment on procède normalement ? On commence par une mission de survol qui vous donne une première idée des grands enjeux qui concernent le corps planétaire, mais aussi du type d'investigation. Est-ce qu'il y a une atmosphère, une magnétosphère ? Est-ce qu'il y a un champ magnétique ? Enfin, tout ce qu'il faut pour regarder l'objet. Deuxième étape, on se met en orbite autour et on en fait la cartographie complète. On a parfois des surprises. Quand on a fait ça pour Mars, c'est là qu'on a trouvé les volcans. Les premiers survols n'avaient rien vu. Et ça permet de repérer les sites qui vont être les plus intéressants, qui vont donner des résultats particulièrement pertinents sur cet objet. Ça va nous amener à la troisième étape, les études in situ. On va envoyer des atterrisseurs, des véhicules, comme Curiosity, dont a parlé Daniel Kunt, des ballons s'il y a une atmosphère, bien sûr, on a même pensé à des planeurs, à des idées absolument extraordinaires, et tout ça vous donne, évidemment, des éléments complètement nouveaux. La quatrième étape, c'est le retour d'échantillons, qui est lié ou non à un vol habité. Alors, on a un contre-exemple extraordinaire, qui est la Lune, puisque là, pour des raisons stratégiques, les Américains voulaient démontrer la supériorité de leurs missiles par rapport aux soviétiques, on a brûlé les étapes en 10 ans, on a fait le 1, le 3 et le 4, c'est-à-dire le retour d'échantillons, en l'occurrence, lié à une volabilité, et on a complètement zappé la caractérisation détaillée qui a eu lieu exactement 35 ans plus tard avec une mission japonaise et une mission américaine. Alors juste un petit rappel historique, lié évidemment à un événement récent qui est la disparition de Neil Armstrong. Cette vision d'Apollo 17, ce sont les dernières empreintes de pas sur la Lune, vous voyez l'ombre de l'astronaute avec les véhicules. Il faut bien voir que cette mission de 1973 reste encore la plus ambitieuse des missions d'exploration planétaire qu'on ait connues depuis l'histoire de la conquête spatiale. Et que finalement, cette image qui date de 40 ans, à un moment où les ordinateurs ressemblaient de près aux calculettes qu'on donne maintenant aux enfants de maternelle, finalement, ça ressemble encore aujourd'hui à de la science-fiction. C'est quelque chose d'assez étonnant. Alors comment est-ce que l'Europe a réussi à s'insérer finalement dans cette stratégie à 4 étapes et à trouver sa place dans le concert international ? Alors c'est quelque chose qui ne s'est pas fait tout seul. D'abord, on est parti avec un retard considérable parce qu'il a fallu d'abord mettre en place des agences spatiales. En 1961, vous avez eu le CNES. En 1962, des agences à l'échelle de l'Europe, mais dans le multilatéral, c'est-à-dire des corps à collaboration entre États. Alors c'était un bordel noir. L'ELDO, c'était les lanceurs. Grosso modo, on empilait l'étage français sur l'étage allemand qui devait supporter l'étage italien. Tout ça n'était pas terrible. L'ESRO, c'était pour la recherche. Tout ça a eu peu d'impact. Ça a connu beaucoup d'échecs. Il a fallu attendre 75, c'est-à-dire finalement 14 ans après Gagarine, pour voir se créer une véritable agence spatiale européenne dans laquelle, au début et encore maintenant, il y a une très forte contribution française. Le budget de l'ESA au début, c'était plus de 50% fourni par la France à cause du programme Ariane. Dans cette période, moi j'arrive à peu près en 73 dans le paysage en pauvre petit doctorant, on voit apparaître une communauté planétologique en Europe. Alors ça se fait avec trois éléments. D'une part, Apollo a évidemment un très fort impact, et il y a en France Silabo qui commence à analyser des échantillons lunaires à partir du tout début d'Apollo 11, et ça forme des gens qui s'intéressent évidemment aux échantillons extraterrestres. Deuxième source, quelques participations scientifiques au programme américain, en particulier la mission Voyager, et un tout début d'implication dans les programmes soviétiques, mais très faible. Et enfin, le développement de compétences pour les plasmas spatiaux, avec les missions nationales du CNES en particulier, mais aussi de l'ESRO, qui en est quelques-unes, dans la magnétosphère terrestre. Évidemment, c'est un endroit le plus proche. Donc on construit la communauté, et ensuite on passe à une deuxième étape, qui est la montée en puissance. Et là, il y a vraiment un événement déclic, c'est la sélection et la mise en œuvre avec succès de la mission Giotto. Giotto, vous avez tous vu cette célèbre image de la comète de Halley, c'est une mission d'exploration majeure, puisque par rapport au schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était le premier survol rapproché d'un noyau cométaire. Donc on est typiquement dans la phase de première exploration et contribution majeure de l'Europe, une première. C'était tout sauf une évidence à l'époque. Et en particulier, il faut se souvenir qu'en 1980, cette mission a en fait été imposée par l'exécutif. Le comité scientifique compétent de l'Agence spatiale européenne a préféré une mission d'orbiteur lunaire. Et c'est pour des raisons, finalement, d'importance médiatique de l'événement, puisque l'Agence spatiale européenne avait 5 ans, personne ne savait qu'elle existait, alors que tout le monde connaissait la NASA, que, finalement, l'exécutif de l'ESA a imposé ce choix. Il y a une anecdote, disons une légende célèbre de l'époque qui dit que le directeur scientifique de l'époque, M. Trajanenburg, parlant du programme de l'Agence spatiale européenne à sa mère, mentionnait tout un certain nombre de missions en la laissant de marbre, et il mentionne un projet vers la comète de Halley, et elle saute du rocking chair en disant « Ah, mais je l'ai vu en 1910, il faut absolument faire ce truc-là ». C'est peut-être une légende, mais c'était néanmoins révélateur de l'impact extraordinairement fort d'une mission planétaire pour la visibilité d'une agence par rapport à pratiquement tout autre type de mission. C'est un fait, on en profite, mais c'est aussi quelque chose d'important vis-à-vis, par exemple, des gens qui sont ici, du grand public. Alors, cette mission-là, c'était parti comme une collaboration avec la NASA. La NASA devait piloter une grande mission cométaire et l'ESA devait être un petit élément en envoyant un survol de Halley pendant que la NASA faisait un orbiteur de la comète Tempelin. Premier épisode d'une longue série, la NASA annule sa mission et l'ESA se retrouve avec sa petite mission toute seule et, en fait, on est ravis. C'est la première charge utile entièrement sous responsabilité européenne. Succès total, survol de Halley en mars 2006, avec donc la célèbre photo, mais aussi plein d'autres résultats. Deuxième élément de montée en puissance, qui sont arrivés à peu près au même moment, c'est l'Union soviétique qui commence à ouvrir ses missions. Ils ont des capacités d'emport de charges utiles énormes. Une mission vers Mars, c'est typiquement 300 kg d'instruments qu'ils peuvent emporter. Et ils ouvrent les vannes, ils disent à tous les pays européens, pour des raisons politiques, c'est la période de la crise des fusées, par exemple, venez donc sur nos missions, comme ça, ça va peut-être vous calmer dans les critiques sur notre politique militaire, mais bon, tant pis, c'est un point. Et donc, on se retrouve avec, en particulier, la mission Vega, qui passe plus loin de la comète, mais en même temps, et même 4 jours avant Giotto, et qui est un grand succès, avec en particulier deux expériences françaises, une expérience allemande à contribution française qui regarde la composition des grains, et tout ça nous donne déjà une expérience de faire voler des charges utiles. Un peu plus tard, avec ce succès, on lance la mission Phobos. Ça, c'est en 88. Moi, je suis dans le coup, comme je l'étais sur Puma. Et malheureusement, les Soviétiques faisaient tout en double. Vega aussi, d'ailleurs. Ils ont perdu une en route. Et l'autre se met en orbite autour de Mars. Nous, on a, à ce qui n'était pas encore l'IAS, 3 mois d'observation avec le premier spectromètre imageur autour d'une planète. Donc, une image de marque tout à fait positive pour la suite. Et malheureusement, cette sonde est perdue à l'approche de Phobos, et tout le monde est très triste. Là-dessus, on repart pour un énorme projet qui s'appelle Mars 92. Il y a 400 kg d'expérience, dont 250 sont fournis par les pays européens, et badaboum, ça se plante au lancement après avoir été décalé de 4 ans. Là, j'y reviendrai parce que c'était un choc extrêmement grave pour le programme planétaire européen. Alors, comme je l'ai indiqué, développer ses compétences instrumentales, même si on se plante, c'est très important. Il y a vraiment un proverbe spatial extrêmement juste qui a volé volera. À la NASA, ça se traduit par un exposito qui a été sélectionné pour Voyager en 1978 et qui était encore candidat pour la mission vers Jupiter qui devait être décidée cette année. Il avait, je crois, 87 ans, quelque chose comme ça. Donc ça montre que le vécu compte beaucoup et les gens préfèrent jouer sur des chevaux qui ont déjà couru. Alors si on regarde un peu la situation d'avant 2000, on a Giotto, fort bien, on est là. L'Europe est là, en vert. Jusque dans toute la suite, l'Europe sera en vert, les Américains en bleu, évidemment les Soviétiques en rouge. On a une contribution majeure pour les petits corps qui est la première mission de survol très rapproché, 600 km, d'une nouvelle classe d'objets du système solaire, les comètes. Mais si vous regardez le paysage global, c'est du bleu et du rouge. Il y a quelques petites étoiles vertes. Il y a Johannes Geiss à Berne qui a réussi à caser un capteur de particules solaires sur un vol Apollo. Vous avez des fortes contributions aux deux missions soviétiques. Quelques petites contributions pour l'étude de Vénus. Mais globalement, vous voyez bien qu'on est... Globalement, l'Europe est un partenaire totalement mineur de ce paysage jusqu'à l'horizon 2000. Ça va changer. Troisième étape, toujours en 1980-90, on voit apparaître un vrai programme d'exploration du système solaire par l'Agence spatiale européenne. Alors, comme je l'ai indiqué ici, c'était tout sauf gagné. On avait Giotto qui avait été vendu sur des arguments d'opportunité, un objet extrêmement connu, la comète de Halley, un passage tous les 76 ans, it's now or never, on y va, on fait un barouf pas possible dans les médias, il faut voir ce qu'a représenté la nuit de la comète à l'époque, on veut dire, il n'y avait que ça dans les journaux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça pouvait très bien être sans lendemain. Pourquoi ? Les budgets étaient très modestes. L'Agence spatiale européenne, dans son programme scientifique, avait à peu près l'équivalent de 170 millions d'euros par an. Une mission, ça coûte typiquement 400 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on ne va pas très loin avec ça. Et il faut servir tout le monde. L'astronomie, le système solaire, le Soleil, les plasmas, tout le monde. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on a dans cette affaire ? On a une communauté émergente, la paléontologie, qui se retrouve face à des gens qui sont là depuis le début de l'exploration en Europe. Donc, ce n'est pas évident. Un atout majeur, c'est la mise en place d'un programme à long terme par le directeur scientifique de l'époque, qui est Roger Maurice Bonnet, qui va parler à l'ESAP, je crois, dans un mois et demi, et qui vous parlera probablement de ça. Et un autre atout qu'a eu la communauté française, c'est les colloques de prospective du CNES. Ils ont joué un rôle majeur parce qu'ils nous ont permis de structurer les priorités, de mettre les choses dans l'ordre, d'éviter de se tirer dans les pattes, ce qui arrivait au début des années 80. Mars voulait dégommer la Lune pour faire passer les comètes et réciproquement. Là, on s'est dit, ça ne marche pas. Il faut prendre les problèmes dans l'ordre et chacun aura plus à l'arrivée. C'est ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, par exemple, en 84 ? Sélection d'une très grande mission cométaire qui était un retour d'échantillons cométaires. Vous allez voir que ça a changé. Cette mission, elle reste encore aujourd'hui à mettre en œuvre. Elle capitalisait évidemment sur Giotto, puisqu'on se disait ben, l'Europe va finalement prendre un petit coin du système solaire, les comètes, et creuser son sillon pour ne pas embêter les grands partenaires qui étaient l'Union soviétique et la NASA. Deuxièmement, Bonnet, grâce à ce programme à long terme, obtient un doublement du budget entre 85 et 95. Et ça restait stable depuis, ça n'a plus bougé. Donc il faut voir que ce n'était pas un résultat facile à obtenir. Et ça, ça donnait une opportunité de sélection dès 88 avec un succès de la communauté planétologique, la mission Cassini-Huygens. Alors ça, c'est vraiment une histoire intéressante aussi, parce qu'au départ, Cassini-Huygens, cette mission-là, c'était un pari extrêmement risqué. Pourquoi ? D'abord, il y avait plein de candidats, 5, dont 2 missions planétaires. Moi, j'étais sur un autre projet qui s'appelait Vesta, qui voulait faire, un peu comme Giotto, un premier survol des astéroïdes, donc une mission de première exploration. Alors que Huygens, sonde de descente dans l'atmosphère de Titan, c'était du in situ. C'est beaucoup plus compliqué. Et en prime, il y avait des risques programmatiques majeurs. La NASA n'est toujours pas d'ailleurs un partenaire fiable. Ils venaient d'annuler la mission cométaire qui devait partir avec Giotto. Ils avaient annulé la sonde qui devait partir avec la sonde européenne pour l'exploration de la magnétosphère, ça s'appelait Ulysse. Les gens n'étaient pas rassurés du tout. Ils avaient bien raison d'ailleurs, parce qu'un an plus tard, ils annulaient une grande mission dont je parlerai après, qui s'appelle CRAF. Néanmoins, quand on regarde la sélection de Cassini, à la place, par exemple, de Vesta, c'était une fort bonne chose, parce que Vesta est en collaboration avec l'URSS. Vous êtes en 88. Un an plus tard, ça n'aurait pas été une très bonne idée d'être en collaboration avec l'URSS, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas le deviner, mais ça c'est bien tombé comme ça. Et d'ailleurs, cette mission-là, elle a fini par être reprise, puisque la mission Dawn de la NASA vient aujourd'hui de quitter l'orbite de, justement, Vesta. Donc, finalement, on arrive à faire beaucoup de choses à condition de les mettre dans l'ordre. Autre élément important, Cassini a été sauvé par l'Europe. Ça, c'est absolument clair. En 91, la mission jumelle, qui était CRAF, a été annulée par la NASA. L'administrateur m'a dit carrément dans le couloir d'un congrès, vous nous avez empêché d'annuler Cassini, texto, ça fait toujours plaisir. Et, évidemment, succès majeur en 2005, et des exploitations pour les orbiteurs. On avait fait un deal avec les Américains, vous prenez, on fait la sonde, vous faites l'orbiteur, on a un tiers de scientifiques sur l'orbiteur, vous avez un tiers de scientifiques sur la sonde. Et aujourd'hui encore, l'orbiteur continue sa mission. Donc vous voyez que ce succès de 88, on en tire encore les bénéfices en 2012 et pour encore plusieurs années. On passe à la décennie suivante. Là, il y a une série de coups durs, il faut carrément le dire. Qu'est-ce qui se passe? Première étape, fin 91, comme je l'ai indiqué, la NASA annule sa mission de rendez-vous cométaire. Et, par voie de conséquence, elle nous tire la carpette d'un coup sec sous la grande mission européenne vers les comètes qui devait être en collaboration avec la NASA, qui était cette mission de retour d'échantillons cométaires. On est à 2 ans du choix de la prochaine grande mission qui doit voler. Vous voyez comme c'est commode quand le partenaire vous lâche quasiment au dernier moment. Et là, bon, là j'étais dans le coup, dans le comité scientifique, en tant que co-chair. Bonjour les dégâts, il faut immédiatement redéfinir cette grande mission avec le budget dont on dispose, c'est à peu près 600 millions d'euros à l'époque, mais sur une base où il n'y a plus que l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche par tous les bouts comment sauver l'objectif scientifique de la mission, et on finit par conclure qu'il faut un rendez-vous cométaire qui soit dédié à l'analyse in situ de la matière cométaire. On ne peut plus la ramener au labo, et donc on va l'étudier autour de la comète. Donc la mission qu'on met en place, ça n'est pas la mission que voulait faire la NASA, qui était beaucoup plus orientée vers ce qu'on appelle la physique cométaire, l'interaction avec le vent solaire, qui allait très loin, à 10 000 km du noyau. Rosetta, la mission européenne, elle fait vraiment tout près. Elle se met à 2 km, elle pose un atterrisseur, donc c'est clairement le noyau et la matière cométaire qui est la priorité. Et effectivement, ça marche. En 1993, on gagne la compétition contre la mission d'astrophysique qui s'appelait Herschel, qui n'était pas complètement prête techniquement, pour un lancement en 2003. Alors donc, Rosetta, juste rapidement, à quoi ça ressemble? Alors vous voyez d'ailleurs l'une des difficultés qu'on a eues. Une comète, ça se balade jusqu'à 5 unités astronomiques du Soleil. Et là, il y a l'un des gros problèmes de l'exploration planétaire en Europe qui nous tombe dessus. Nous n'avons pas de générateur d'électricité radioisotopique. Ce qui veut dire qu'il y a comme possibilité que les panneaux solaires. Et ça, c'est pas gai parce que, si vous regardez, je reviens d'un cran parce que c'est marqué dessus, quand vous êtes à 5 unités astronomiques, vous avez 10 watts par mètre carré de panneaux solaires. Résultat des courses, Rosetta, vous avez des draps de lit qui sont les panneaux solaires qui permettent tout juste de survivre à 5 unités astronomiques. Donc on voit bien que l'abandon du projet par la NASA nous a rendu la chose finalement assez compliquée. Donc je l'ai déjà dit, on est dans une logique de proximité du noyau avec cet atterrisseur qui s'appelle Philae qui va se poser. Tout ça va avoir lieu bientôt, mais on va y venir juste après. Alors il y a eu des petits à-coups politiques, par exemple, au CNES, je me souviens très bien, j'étais président du groupe de sélection, on nous annonce en 97, donc 4 ans après la sélection, au fait, on est obligé de couper 30% du soutien aux expériences de la comète. Et la raison était tout simplement qu'au passage, M. Helmut Kohl et M. Chirac se causaient sur le passage à l'euro, et l'Allemagne avait mis dans la balance le soutien à la station spatiale qui coûtait la peau des fesses, et le CNES a cherché partout des centaines de euros pour éviter de se fâcher avec les Allemands au moment où on voulait construire la monnaie commune. Comme quoi, le spatial et le politique ont toujours quelques petits rapports. Néanmoins, la situation pour la France reste correcte, puisqu'on a 2 expériences qu'on appelle PI, c'est la responsabilité française, une co-responsabilité avec l'Allemagne de cet atterrisseur, et des participations françaises à 80% de la charge utile. Donc on s'en est quand même pas si mal sorti, mais c'est clair qu'on a perdu des plumes quand on vous baisse 30% le budget. Là-dessus, un peu plus tard, nouveau problème pour la pauvre mission Rosetta, elle se prend les problèmes du développement d'Ariane 5. Que vous savez, il y a eu deux échecs au début du programme. Les gens étaient inquiets. Résultat, le lancement qui était prévu en 2003, il est annulé un mois avant. Tiens, finalement, on ne peut pas lancer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, parce qu'on ne peut plus aller vers cette comète-là. Donc il faut trouver, en quelques semaines, une solution de secours, ce qui d'ailleurs conduit l'ESA ultérieurement à toujours imaginer, attention, il nous faut toujours deux, trois missions consécutives avec le même schéma. Alors ce n'était pas facile, parce que la mission passait par Mars. Il y avait plein d'options par Vénus, mais quand vous passez par Vénus, vous avez chaud aux fesses, pour parler vulgairement, parce que vous passez beaucoup plus près du Soleil. Et donc ce n'était pas possible techniquement. Résultat, finalement, on trouve une cible qui s'appelle, un nom pas possible, Churyumov-Gerasimenko. Seuls les gens qui sont dans le projet peuvent le prononcer sans bafouiller. Le lancement est en février 2004, mais pas Vénère. Il y a 10 ans et demi de trajet au lieu de 8. Donc, dans l'affaire, on a perdu plus de 3 ans sur l'arrivée à la comète. Ça devait être en 2011, ça va être mi-2014. Et en prime, à cause des limitations des lanceurs européens, c'est un paquet de nouilles. Voilà à quoi ça ressemble, la trajectoire. Je ne sais pas si vous voyez la complexité, finalement, de la stratégie qu'on est obligé d'utiliser. On lance de la Terre, on revient à la Terre un an plus tard, on va voir Mars, on revient, on refait un tour, on repart. Alors pourquoi on revient à la Terre un an plus tard? Alors ça, je crois qu'il faut passer un peu de temps là-dessus. C'est le deuxième handicap de l'exploration planétaire en Europe. Le premier, comme je l'ai dit, on n'a pas de générateur à radioisotopes. Entre autres, toujours pareil, parce que l'Allemagne avait déjà cette tentation du nuclear nine danke, qui en matière de spatial, il nous en faut, on n'y peut rien. Et l'autre problème, il est là. Ariane 5 est un excellent lanceur pour lancer dans le plan de l'équateur, parce que c'est fait pour lancer des satellites de télécommunication. Malheureusement, pour aller vers une planète, il faut parfois lancer, partir de la Terre en dehors de l'équateur, soit vers le sud, c'est cette région des performances, soit vers le nord. Là, vous avez la masse que vous pouvez lancer. Et vous voyez que si vous partez dans l'équateur, par exemple, à une vitesse qui est typique pour Vénus ou Mars, 3,4 km par seconde, vous avez 5 tonnes, ce qui est énorme. Mais dès que vous sortez de l'équateur, badaboum, vers le nord, par exemple, vous retrouvez à 10 degrés nord, ce qui est vraiment pas loin, pratiquement, avec 30% de masse en moins. Donc comment vous faites? Vous lancez dans l'équateur, vous faites un tour pour rien, vous revenez à la Terre, et la Terre vous fait tourner la trajectoire de la sonde par une assistante gravitationnelle, et là, vous partez dans la bonne direction. Donc, grosso modo, ce fait qu'on n'ait pas de lanceur réallumable, parce qu'on voulait, normalement, d'ailleurs, dédier Ariane 5 à lancer des satellites de télécommunication, coûte un an de trajet aux trois grandes missions planétaires européennes, dont Rosetta, dont je viens de parler, et celle dont je vais parler après. Les trois ont pris ce problème un an de plus. Or, donc, si on revient à notre schéma, vous voyez qu'on a notre survol de Mars, cette stratégie est tellement complexe qu'on a réussi à caser deux survols d'astéroïdes, l'une dans cette boucle de 2 ans, l'autre dans le trajet vers la comète, qui nous ont donné des très bons résultats en 2008 et 2010. Alors le coût des panneaux solaires, donc de l'absence de radioisotopes, on le paye en ce moment. Vous avez une période de 3 ans, et Rosetta est ici aujourd'hui, pile au plus loin du Soleil au moment où je vous parle, où on ne peut même pas communiquer la comète. On est dans l'opération survie. Donc c'est quand même une situation. Donc on va arriver bientôt là, dans un an et demi, et tout le monde espère qu'on va retrouver notre satellite. Je pense aussi, mais c'est quand même, on préférerait pouvoir lui causer tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième épisode, l'exploration de Mars. La période 90-2000, alors là, c'est un peu le bazar. Première étape, premier épisode, mi-92, il y a une mission énorme de la NASA qui s'appelle Mars Orbiter qui se plante à l'arrivée. Et donc, ils sont obligés de tout remettre à plat. Et c'est là qu'ils inventent des tas de petites missions qui doivent faire le boulot, qui vont s'appeler Mars Global Surveyor ou Mars Odyssey. Et donc, ça complique le paysage parce qu'on ne sait plus du tout ce que la NASA va faire. Un peu plus tard, il y a une bonne nouvelle qui est qu'on arrive à définir, nous, planétologues, quel va être le deuxième grand objectif. C'est la caractérisation détaillée de Mercure avec la mission Bepicolombo. Ça, c'est mi-94. L'épisode est intéressant parce que, de fait, l'exécutif voulait plutôt du Mars. Donc, ils mettent des tas de Martiens dans le comité. Et on se rend compte qu'on nous demande en 1994 de nous dire quelle est la mission majeure qu'on peut faire vers Mars en 2009. Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est oui, c'est une priorité. Si vous voulez, Mars, on dit, voilà, il y a un investissement pour Mars à un moment, mais on ne sait pas du tout quelle sera la bonne mission à faire en 2009. C'était vrai en 1994, c'était encore plus vrai en 2000, et tout juste, on commençait tout juste à savoir quoi faire en 2003. Donc, quelque part, on avait raison, et ils voulaient une mission, ben, c'était la mission vers Mercure. Les aléas programmatiques. On continue. Septembre 1996. Le grand projet planétaire européen qui s'appelait InterMarsNet, un réseau de sismos à la surface de Mars, n'est pas sélectionné. La mission qui gagne, c'est la mission Planck, une grande mission de cosmologie, qui devait voler en 2003 et qui a fini par voler en 2009 et dont on attend, dont on a déjà eu plein de résultats et qui va donner ses résultats cosmologiques dans 6 mois maintenant. Donc c'est une très bonne mission qui gagne et on ne peut pas gagner à tous les coups et on prime. Chance extraordinaire, si par hasard on avait sélectionné InterMarsNet, la NASA plantant de mission exactement 2 ans plus tard, en orbite autour de Mars, un atterrisseur et un orbiteur, de toute façon, cette pauvre mission InterMarsNet aurait disparu dans le paysage. Donc là aussi, le programme européen a eu de la chance, puisque la décision s'est trouvée justifiée a posteriori, pour des raisons que personne ne pouvait deviner. Plus ennuyeux, on arrive en octobre 1996, là, la grande mission Mars 96 avec les Russes, puisque c'est plus les Soviétiques depuis 7 ans, se plante au décollage. Alors là, c'est le drame, parce que tous les grands pays européens ont investi un fric dingue sur cette mission. Comme je l'ai dit, il y a 300 kilos d'expérience européenne. Il faut voir que sur le budget scientifique planétologique du CNES, 80% du budget entre 90 et 95 a été lié à cette mission. Donc c'est vraiment un investissement énorme qui tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on arrive à rebondir. Finalement, en 1998, on arrive à faire sélectionner par l'Agence spatiale européenne une mission qui s'appelle Mars Express, qui emporte les modèles de rechange des instruments qui ont été perdus et en prime un petit atterrisseur. Alors, il faut voir, vous avez commencé déjà à vous en apercevoir, que l'Agence spatiale européenne a plutôt tendance à prendre son temps. On en aura un exemple encore plus clair un peu plus tard. Comment ça a été possible ? Là, on a réussi à faire décider une mission à partir de rien en 2 ans. Il a fallu 3 éléments. Premièrement, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En 1994 déjà, les gens voulaient du Mars, mais ils ne pouvaient pas définir quelle était la bonne mission. Et là, merveille, on a une première idée. Si on peut faire revoler tous ces instruments perdus, on aura une très bonne mission. Deuxième élément, donc ça, c'est lié à cet échec majeur russe. Deuxième élément, le 4 juillet 1997, arrive sur Mars un petit robot qui s'appelle Pathfinder, dont la seule charge utile est fournie par l'Allemagne. Les Américains voulaient en faire un démonstrateur pour une grande mission de réseau qui s'appelait Mesure, sauf qu'ils ont maintenu le démonstrateur et ils ont annulé la mission de réseau. C'est astucieux. L'Allemagne a insisté pour mettre une caméra et un spectro-X à bord, et ça a permis d'avoir quelques résultats. Ça a fait un tel impact médiatique, tous les journaux ne parlaient que de ça, il faut voir à l'époque ce que ça représentait, que l'ESA s'est retrouvée confrontée à tous les journaux européens et tous les médias disant « Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, vers Mars ?» Ils ont pu dire « Ah, mais justement, nous avons un projet de mission qui s'appelle Mars Express, qu'on va essayer de pousser pour montrer que nous aussi, on existe. » Donc là, vous avez une description rapide, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. 5 instruments qui étaient déjà sur Mars 96, un radar de sondage, nouvel instrument avec les Américains et l'Italie, un petit atterrisseur anglais. Alors vous voyez que les Anglais, ils n'étaient pas sur Mars 96. Alors cet atterrisseur, il avait de belles qualités. Il permettait d'avoir le soutien des Anglais, ce qui n'était pas simple, parce que les Anglais de l'époque étaient tous favorables à la planétologie. Il y avait très peu de planétologie au Royaume-Uni. C'était très risqué technologiquement, parce qu'ils n'avaient pas testé la moitié des systèmes. Ça s'est planté à l'atterrissage, d'ailleurs. Mais en plus, ça pouvait marcher. Donc c'était le bénéfice de Beagle, c'est que d'une part, ça nous a permis d'avoir la mission, et en prime, on ne sait jamais, ça avait une chance de marcher. À l'arrivée, un succès majeur pour l'Europe, pour un coût qui, aujourd'hui, serait d'à peu près 300 millions d'euros. C'était vraiment, effectivement, une opportunité à ne pas rater. Alors, un petit mot sur la planète Mars, très rapide. Voilà ce qu'on voit depuis la Terre dans les meilleures conditions avec le meilleur télescope. C'est déjà un exploit, ce type de photo. Vous ne l'avez pas en regardant dans un télescope amateur le soir à la veille. Ça révèle déjà plein de choses, comme les canaux de glace, les nuages, les saisons. On commence à voir, non pas des canaux, parce que ça, c'était raté, mais éventuellement des structures qui ressemblent à des rivières fossiles, comme ici, qui s'est révélé un canyon. Et à partir de ce type d'image, je prends un ouvrage scientifique de 1966, et on lit « Mars est un objet bien connu, et par exemple, les taches qui tournent au jaunâtre viennent de plantes de type talophyte ou d'algues de glacier. » En l'occurrence, ça veut dire que cette vision de la Terre était une interprétation un tout petit peu rapide. Néanmoins, ça démontrait déjà les éléments qui font de Mars cette priorité. C'est que d'une part, on a beaucoup de points communs avec la Terre, et d'autre part, c'est effectivement un site possible d'apparition de la vie. D'ailleurs, le résultat essentiel pour moi de Mars Express, mais je suis un peu biaisé parce que je suis dans cette manip-là, c'est qu'effectivement, avec l'un des instruments qui s'appelle Omega, alors vous voyez déjà un composite, ça c'est la caméra stéréo de Mars Express combinée avec le spectro-imageur. Vous voyez que la résolution qu'on peut avoir avec une mission orbitale par rapport à ce qu'on pouvait faire depuis la Terre, c'est quand même pas, on ne tire pas dans la même catégorie. Donc ça vous démontre qu'effectivement, pour l'exploration détaillée, la caractérisation détaillée, la mission orbitale, il n'y a pas mieux sur le marché. Et qu'est-ce qu'on démontre? C'est que vous avez ici une vallée fossile qui date d'à peu près 3 milliards d'années. On s'attendait à trouver des argiles qui sont formées par de l'eau au fond de la vallée. Que nenni, on trouve les argiles sur les plateaux autour qui sont des terrains très anciens qui datent de plus de 4 milliards d'années. Donc le grand résultat, c'est que oui, il y a eu de l'eau liquide, mais beaucoup, beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait par rapport à l'histoire de la planète. Et ça, ça va orienter toute la suite de l'exploration martienne puisqu'on sait maintenant où envoyer des missions qui vont chercher des traces fossiles de vie sur la planète Mars. Donc c'est quand même un résultat majeur. Alors ça marche tellement bien que l'ESA sélectionne en 2002 une deuxième mission planétaire qui utilise le même satellite et qui est lancée en 2005 et qui reste encore aujourd'hui la seule mission vers Vénus depuis Magellan en 1989. Donc l'Agence spatiale européenne occupe le créneau Vénus finalement en tant que spin-off retombée de Mars Express. Bepi Colombo, je vous en ai parlé, c'est la pierre angulaire vers Mercure. Alors là, c'est vraiment une saga invraisemblable. Comme je dis, c'est des inconvénients et des avantages de prendre son temps. L'Agence spatiale européenne, pour des raisons budgétaires, a 5 fois moins de budget que la NASA, et donc passe son temps à jouer la tortue par rapport au lièvre NASA. Espérons que les zigzags du lièvre vont lui permettre soit de la rattraper, soit d'arriver à faire son trou dans une situation au départ très défavorable. Et là, on a l'exemple typique. L'Agence spatiale européenne sélectionne cette mission en 1993. En 2001, on décide que c'est elle qui va être lancée en 2009 pour 2014. Et par un hasard malheureux, en 2002, la NASA sélectionne une mission orbitale qui va arriver avant. Genre, je vais essayer de couper l'arbre sous le pied au programme concurrent. Très bien. En fait, évidemment, ils sont obligés d'aller très vite, donc ils ne peuvent pas tout faire. Mais il faut qu'on fasse un travail énorme pour montrer qu'il y a la place pour une deuxième mission en orbite. N'exagérons rien, si vous prenez la planète Mars, qui est certes une plus grande priorité, il y a eu 12 missions en orbite depuis 1996. Donc on peut imaginer qu'il y a toujours place pour une deuxième mission après la première. Mais néanmoins, il y avait toujours cette question, il y a cette mission en 2011, pourquoi vous voulez encore arriver derrière? Ils auront tout gratté. En fait, on peut démontrer qu'on va faire plein de choses très intéressantes avec. Mais bon, ça c'est... Autre détail important, que j'ai failli oublier, la difficulté que présentait cette mission, c'est que c'était techniquement complètement nouveau. Il fallait la propulsion ionique. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Au lieu d'envoyer des gaz derrière avec un gros moteur, vous envoyez des ions avec un moteur ionique qui accélère des ions. Ça pousse très peu, mais ça pousse très longtemps. Et pour ça, l'ESA voulait une démonstration. Ça a été la mission Smart One, qui est partie en 2003. Alors ça vous donne ce genre de truc. En rouge, c'est les périodes de poussée. Vous avez donc une espèce de spirale. En l'occurrence, ça part de la Terre, d'une orbite elliptique, et on tourne et on tourne et on tourne. On termine en utilisant la Lune, ça c'est moi qui avais proposé ça pour gagner de la masse, en particulier pour mettre 15 kg de charge utile, et à l'arrivée, vous vous retrouvez en orbite lunaire. Ça a merveilleusement marché sur le plan technique, et c'était une très très bonne simulation de la mission Bepi Colombo. Donc c'est ça qui a vraiment permis de stabiliser la mission. Les ennuis continuent. Il y a des grosses difficultés de développement parce que c'est une nouvelle technologie, la propulsion ionique. On démarre avec 1800 kg en 2001, on se retrouve avec 4 tonnes en 2008. Donc il faut changer de lanceur, ça coûte plus cher, il y a un retard, ça coûte plus cher. À l'arrivée, 50% de surcoût. Et même la décision, enfin, le choix d'annuler la mission, ça a été posé au conseil de l'ESA qui a rejeté cette option. Et comme je disais, il y a aussi des avantages, c'est quelque part l'Europe privilégie la cohérence, la continuité. Donc il y a des problèmes, mais on essaie quand même de faire. Et à l'arrivée, ça finit par se faire. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est Smart One à l'envers. Smart One, il y avait une spirale qui partait de la Terre, qui allait vers la Lune. Là, c'est l'inverse. On part de l'orbite terrestre et on descend, et on se retrouve en orbite autour de Mercure. Vous avez le cartoon ici avec le satellite qui regarde Mercure sur l'orbite dite Nadir. Et ça, c'est très bien pour cartographier parce que vous êtes toujours dans la même configuration par rapport à la planète. Alors, pourquoi c'est très compliqué? Parce qu'il fait une chaleur à crever. Il y a à peu près 14 kW par mètre carré qui vous viennent du Soleil, et en prime, la planète vous chauffe par en dessous. Alors, c'est très, très difficile. Mais donc, c'est une affaire qui roule et qui va être lancée donc en août 2015 et qui va arriver en janvier 2022. Rappelez-vous de la date de première décision, 1994. On est toujours dans les 30 ans. Rosetta, pareil. 1984, je rentre dans l'équipe scientifique en octobre 2005 et on va arriver à la comète en 2014. Il vaut mieux démarrer jeune. J'avais 33 ans et ça va tout juste. Dernier épisode pour les grandes missions et pour le programme européen, c'est tout récent, la sélection de la mission JUICE, qui est d'ailleurs un nom complètement débile, si vous voulez mon avis, qui est consacrée au système de Jupiter. Alors là, le créneau, il est très simple. Il y a eu une mission de caractérisation en détail du système de Jupiter qui s'appelait Galileo. Elle a été lancée avec succès, elle a eu un seul problème, l'antenne Grandguin ne s'est pas déployée. Donc au lieu d'avoir 100 kbps par seconde, vous avez eu 40 bits par seconde. La stupeur générale, quand vous perdez un facteur 10 000 sur le bilan de télémesure, eh ben vous ne pouvez pas envoyer toutes les images. C'est simple et de bon goût. Donc ils ont fait des choses, ils ont pu envoyer toute la sonde de descente correctement, mais la cartographie détaillée, c'est tout simplement pas possible. Donc ce créneau-là a été proposé dans un projet de mission commune entre les ESA et la NASA, ça s'est appelé EJSM, c'était encore le cas il y a 2 ans. L'ESA devait s'occuper de Ganymède et Callisto, NASA de Io Europe, à cause des radiations de Jupiter qui sont énormes. Et comme vous le savez, la NASA a des capacités à utiliser des technologies militaires que n'a pas l'Europe, parce que les programmes militaires aux États-Unis sont très développés. Et badaboum, en 2010, 2 ans avant les sélections, c'est toujours plus rigolo, la NASA se retire pour la 4e fois en 15 ans, et ça va continuer, comme vous allez le voir. Et donc, les Européens se retrouvent à essayer de redéfinir leur mission en 3 minutes, en l'occurrence 1 an. On y arrive, on insère le Survol d'Europe pour élargir le retour scientifique, et grâce à cette redéfinition en catastrophe, on arrive à faire sélectionner cette mission d'avril 2012 pour lancement en 2022. Alors, il faut voir que c'est une très bonne surprise pour la communauté planétologique, parce que ça veut dire que dans le programme européen qui couvre toutes les thématiques, 2 missions majeures consécutives sont des missions de planétologie. Depuis Colombo, en 2015, vers Mercure, et JUICE, en 2022, vers Jupiter. Honnêtement, ça m'a plutôt surpris, agréablement, mais j'aurais pas pris le pari de façon évidente, parce que quand vous avez peu de ressources, vous avez tendance à faire plutôt de l'alternance que de renforcer les points forts. Alors, à quoi ça ressemble? Vous retrouvez les paquets de nouilles habituels pour aller vers le système solaire externe. Comme d'habitude, il faut passer par Vénus, ou par Mars, en l'occurrence par Vénus. Comme d'habitude, il vous faut 1 an de plus parce que vous avez le problème de déclinaison, donc vous lancez en 2022 dans l'équateur, mais en fait vous lancez en 2023 dans la bonne direction, et vous voilà parti vers Jupiter avec... Alors vous voyez les ordres de grandeur encore, on vient de décider la mission. Si tout va bien, on arrive à Jupiter en 2030, avec une phase orbitale de Ganymède en 2032. Là, pour moi, ça devient un peu limite. Bon, je ne vous relèverai. Non, on ne sait jamais, mais bon. Soyons optimistes. Mais bon, je dirais, l'exploration planétaire dans ces grandes missions, c'est, toute proportion gardée, un peu les bâtisseurs de cathédrales. Vous avez des choses qui ont été lancées il y a 20 ans, qui portent leurs fruits aujourd'hui, et il faut construire pour les futures générations de scientifiques. C'est ce qu'on fait avec cette mission. J'ai aucun problème avec ça. Alors, un dernier point sur l'Agence spatiale européenne, les programmes optionnels et le programme d'exploration. Ça va à peu près. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a un argument majeur pour investir en technologie dans les programmes spatiaux, c'est qu'on a beaucoup de mal à le faire dans les programmes militaires au niveau européen. Et donc, il y a une décision de ce qu'on appelle un programme optionnel, où chacun apporte le fric qu'il veut bien apporter. C'est en 2005, et ça permet de trouver des ressources en dehors du programme scientifique, qui est à 350 euros et qui va le rester jusqu'à la fin des temps, parce que pour le changer, il faut l'unanimité des 17 pays membres. Alors vous imaginez comme c'est commode de changer une virgule. Ça, c'est l'avantage. On a de nouvelles ressources. Inconvénient numéro 1, depuis qu'il y a ce programme d'exploration, tout ce qui ressemble à Mars ou la Lune, pouf, on dit « Ah non, ça c'est de l'exploration, le programme scientifique ne va pas s'en occuper ». Deuxième inconvénient, comme les décisions sont prises en fonction du retour industriel vers chaque pays qui met de l'argent, ce n'est pas un facteur de logique technique et de maîtrise des coûts, puisque l'objectif est de mettre de l'argent dans l'industrie. Et ça donne des résultats tout à fait intéressants, en restant poli. Évidemment, si on veut établir la crédibilité, il faudrait dire réussir la première mission qui s'appelle ExoMars. Là, c'est pas follement gay. Voilà à quoi ça devait ressembler en 2005. Un joli véhicule qui s'appelait Pasteur. Au départ, chaque pays membre voulait mettre ses instruments. Il y en avait 20, puisque c'est eux qui payaient, disaient « et moi, et moi, et moi ». À un moment, ils se sont rendus compte que 20 instruments dans 10 kilos, ça ne tenait pas. Donc on finit par sélectionner, il n'y en a plus que 8, non, 7, pardon. Il y a une très jolie foreuse qui descend à 2 mètres de profondeur. C'est la spécificité d'ExoMars encore maintenant par rapport à la mission beaucoup plus ambitieuse qui est Curiosity, dont je parlerai tout à l'heure. Là-dessus, ça dérape. On se dit, bon, il faut aller avec la NASA. On va lancer 2 véhicules en même temps, un américain, un européen. Mais bien entendu, début 2011, la NASA dit unilatéralement, finalement, on n'est plus dans ce coup-là. Donc il faut tout repenser, on va voir les Russes, c'est vous qui allez lancer le véhicule. 10 mois plus tard, ils ratent le lancement de Phobos Ground. Les gens ne sont pas totalement rassurés sur la suite des événements. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'on lance une mission en 2016 où il n'y a pratiquement pas de science sur l'orbiteur puisque les Américains ne sont plus là. Un petit atterrisseur qui va durer 3 jours parce qu'on attendait un radioisotope russe qui devait être disponible et qui ne l'est pas. Et quant à la mission Rover, ben, il reste encore à construire. Donc il y a encore beaucoup de boulot à essayer de sortir de ce guépier, alors que vous voyez le budget. C'est plus de 2 ans de budget, c'est pratiquement 3 ans de budget du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. Donc ça serait quand même dommage que ça parte à la poubelle, si vous voyez ce que je veux dire. Alors il n'y a pas que l'Europe, et il n'y a pas que l'Agence spatiale européenne. L'Europe arrive aussi à se caser ailleurs. Alors c'est pas évident. Vous avez les très grandes missions de NASA. Là, c'est très simple, on sélectionne la mission. Il y a beaucoup de fric, et ensuite les gens se battent pour monter dessus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez jusqu'à 4 proposants pour chacune des expériences. Donc, grosso modo, la seule chance de monter à bord, c'est de se marier avec un partenaire américain qui a beaucoup de poids, et c'est ce qui s'est passé en France avec l'expérience ChemCam, une participation plus modeste, un truc chimique, sur cette grande mission. Alors là, voilà, 2,4 milliards de dollars. Il faut bien voir que ce truc-là, c'est complètement en dehors des possibilités actuelles de l'Agence spatiale européenne. Budgétairement, c'est trop gros, et techniquement, cette affaire de Skycrane, quand vous voyez le cartoon, vous dites « oh là là, ça ne va jamais marcher ». Bon, ça a marché, mais on croisait tous les doigts, je peux vous dire. Et vous voyez l'engin, 800 kg, 3 générateurs isotopiques qu'on n'a pas nous, qui vous fournissent à peu près 500 watts, donc effectivement, 100 km d'autonomie à la surface de Mars, et des possibilités. Ce genre de mission, soyons clairs, ils peuvent le faire, pas nous. Donc on est ravis de monter à bord. Alors ça vient d'arriver, le 6 août, heure européenne, le 5 août, heure américaine. Et vous voyez la première image du mont D-Sharp, ils l'ont appelé comme ça, où vous voyez ces couches horizontales, dont on pense que c'est peut-être des couches sédimentaires liées à l'eau. D'où l'idée d'aller voir ces couches pour voir s'il y a des choses qui rappellent des régions où la vie a pu apparaître. Dire qu'on va trouver de la vie serait à avancer beaucoup trop vite. Alors l'instrument français, c'est ChemCam, il fait des analyses chimiques par spectrométrie d'émissions. Vous voyez que le premier spectre montre tout un tas d'éléments dits constitutifs des roches, comme le magnésium, le silicium, l'aluminium et le calcium. Je n'ai pas le droit de trop en dire, parce que c'est sous embargo. Enfin, ce spectre-là est dans le communiqué de presse, on peut y aller. La NASA a un autre programme qui n'a plus rien à voir, qui s'appelle le programme Discovery. Là, c'est l'inverse. Vous sélectionnez la mission et sa charge utile dans un budget complètement prédéfini. Et là, ça donne une ouverture, parce que, comme il faut absolument faire le moins cher possible en faisant le plus possible, les proposants américains essaient de réduire les coûts. Et donc, ils demandent aux Européens des instruments, parce que ce n'est pas eux qui payent. Alors, ça donne des résultats curieux. Vous avez Dawn, par exemple, qui est une très grande mission pour une mission de Discovery. Il y avait 4 expériences majeures, 2 américaines, 2 européennes. Là-dessus, le budget américain déborde, donc ils sont obligés d'annuler un instrument, et pas n'importe lequel, celui du proposant américain. C'est un peu hard, d'autant que c'est le magnétomètre, lequel est absolument pour moi indispensable à cette mission, parce qu'on pense qu'il y a un noyau métallique. C'est très très con. Mais néanmoins, à l'arrivée, il y avait deux pince-mis et deux pince-mois. L'un des pince-mis tombe à l'eau. On était à deux doigts d'avoir une mission américaine qui n'emporte que des instruments européens. C'est un bon rapport qui a été pris pour l'Europe. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, à nouveau, un bel exemple de la manière dont on peut faire mieux quand on se met en orbite. Ça, c'est la meilleure image de Vesta prise par Hubble, et c'est un exploit du point de vue travail de l'image. La première image de Dawn à l'approche de Vesta et un zoom en orbite qui vous montre le type de détails qu'on peut avoir quand on se met en orbite. Deuxième exemple de ce genre d'affaires, la mission InSight. Alors ça, c'est hyper récent, puisqu'elle a été sélectionnée le 20 août 2012. Vous voyez que vous êtes vraiment au cœur de l'actualité. Et là, même combat, vous avez un atterrisseur martien qui est payé par la NASA, mais pour moi, les deux instruments majeurs sont européens. Il y a le Sismo large bande qu'on essaie de faire voler depuis 20 ans, dont la première fois sur Mars 96, tout ça ne nous rajeunit pas. Il est meilleur depuis, parce qu'il a quand même progressé. Et ce qu'on appelle une taupe, un système qui fait du pogo, c'est-à-dire pour essayer de rentrer dans la poussière martienne jusqu'à 5 mètres de profondeur. Celui-là, il est allemand. Donc là aussi, on a une mission américaine, mais de contributions instrumentales scientifiques absolument remarquables. Tout le monde s'y retrouve. La visibilité va être américaine, mais pour les Européens, pour des coûts qui sont importants, mais très inférieurs à la mission, on se retrouve avec un retour scientifique qui vaut le coup. Il reste d'autres partenaires, mais là, ça se complique vraiment. Il y a les agences émergentes, le Japon, la Chine et l'Inde. Enfin, le Japon, c'est plus qu'émergent. Vous avez la Russie. Mais toutes ces agences sont très difficiles à gérer. D'abord parce que vous avez un mal de chien à comprendre quel est le processus d'approbation des missions. À partir du Japon, vous pouvez avoir une mission qui est approuvée scientifiquement et qui met 5 ans, 10 ans ou jamais pour être approuvée budgétairement. Donc ils vous disent cette mission est dans le programme. Mais éventuellement, 10 ans plus tard, elle sera toujours dans le programme, mais elle ne sera toujours pas plus près d'être faite. En prime, ces agences pour la planétologie, c'est nettement mieux ailleurs, ont quand même pas mal d'échecs. J'ai parlé de Phobos-Grunt en 2011. Le Japon a raté 2 missions planétaires de suite, une vers Mars, une vers Vénus. La mission de retour d'échantillons d'astéroïdes a failli être perdue, il l'a récupéré vraiment par la peau du cou. Et c'est justement sur cette base-là qu'on a une collaboration avec eux, avec un atterrisseur qui s'appelle Mascot, sur un revol d'Hayabusa. Comme ça, un revol, on peut espérer que ce coup-ci, ils vont s'en sortir sans trop de difficultés. Ce qui m'amène à ma première conclusion. Pourquoi je parle d'un âge d'or aujourd'hui pour l'exploration planétaire en Europe? Si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré avant l'an 2000, on avait une mission, Giotto, et quelques petites contributions à gauche et à droite. Là, j'ai mis en vert toutes les missions européennes. Et vous voyez que tous les objets d'étude du système solaire, y compris la Lune de manière marginale, ont une mission européenne qui joue un rôle dans son exploration. Et en particulier, vous avez pour les planètes géantes la collaboration Cassini-Huygens, une mission américaine avec un instrument européen qui est Juno, et derrière, l'Europe prend le leadership, carrément. Quand on pense qu'on a réussi à faire ça avec le 5e du budget de la NASA, le bilan est surprenant. On a eu de la chance dans beaucoup de cas, mais c'est quand même pas si mal. C'est équilibré parce qu'il n'y a pas que le vert, il y a aussi le bleu, avec des contributions instrumentales aux missions américaines. Je vous ai parlé de Dawn, je vous ai parlé d'InSight, donc il y a Juno qui traîne, Stardust a eu des bons résultats aussi. La petite mission japonaise qui est ici, et à l'arrivée, on a vraiment un paysage qui nous permet d'avoir accès à toutes les questions scientifiques concernant le système solaire. C'est complètement invraisemblable quand on voit d'où on part en 1980 avec une mission sélectionnée quasiment par hasard. Si on regarde le bilan en termes concrets, vous voyez qu'effectivement, on a aujourd'hui 4 missions européennes en opération ou en collaboration européenne, certaines depuis 8 ans, d'autres beaucoup plus récemment. Des expériences qui sont en opération sur des missions américaines depuis juillet 2011 sur Dawn et qui vont être en opération à partir de 2016 autour de Jupiter. Et non seulement ça, mais on a aussi au niveau technique 42 contributions instrumentales en planétologie qui sont en cours de réalisation ou de sélection. C'est toutes ces missions-là qui sont en préparation. Par exemple, mars 2018, comme je vous l'ai dit, on prépare les instruments, mais on aimerait bien qu'il y ait une mission à l'arrivée. Ce n'est pas encore garanti. Ce qui nous donne une situation très favorable. Un retour scientifique dont on n'osait même pas rêver il y a encore 15 ans, un capital pour la formation des jeunes chercheurs qui est extraordinaire et une capacité de développement des compétences des équipes techniques que vous avez là et qui est énorme. Donc on est vraiment très, très bien placé, il faut quand même le dire. Cette situation nous permet en prime d'avoir maintenant une approche cohérente. rien qu'avec les retours scientifiques européens. Par exemple, vous vous intéressez aux magnétosphères dans le système solaire et vous vous intéressez à la Terre. Donc là, je mets niveau 1 pour la Terre, pour le dipôle, pour la pression du vent solaire, et pour la Terre, la taille de la magnétosphère fait à peu près 10 fois le rayon de la planète. Vous avez deux missions européennes, BP Colombo, Cassini, qui était en partie européen, et JUICE, qui est complètement européen, qui regardent d'un côté Mercure, qui est une magnétosphère extraordinairement comprimée, et de l'autre, Jupiter et Saturne, qui sont des magnétosphères complètement dominées par l'objet central. Donc vous avez la Terre au milieu, vous avez une vraie approche de planétologie comparée de la physique des magnétosphères planétaires. Même remarque pour la formation planétaire. Deux missions majeures, Rosetta et BP Colombo. L'une regarde les comètes, l'autre Mercure, région externe, région interne. Les instruments sur Dawn, les survols des astéroïdes, vous donnent la région intermédiaire de la nébuleuse. Donc on a vraiment une logique scientifique cohérente pour tout ce domaine d'exploration. Un petit état des lieux et les perspectives, et j'arrive pratiquement au but. La phase d'exploration, je reprends mes quatre étapes. La phase d'exploration, elle va se terminer en 2015, quand on va survoler le premier objet de Kuiper, les deux premiers objets, qui sont, en l'occurrence, Pluton et Charon, qui ne sont plus, comme vous le savez, des planètes. La caractérisation détaillée, on avance quand même très bien. Avec JUICE, Cassini, qui est arrivé avant à Saturne, puis JUICE à Jupiter, on aura caractérisé tous les systèmes planétaires, sauf Uranus et Neptune. Mais eux, ils ont un petit problème, il faut 15 ans de trajet. Sauf si vous avez la propulsion électrique nucléaire, mais là, il faut carrément 100 kW. Il faut une vraie petite centrale nucléaire à bord, c'est quand même pas de la tarte. Donc, logiquement, on a aujourd'hui une priorité à l'in-situ. Ce n'est pas pour rien que vous avez Curiosity sur Mars, la Terre étant Rosetta, ExoMars en 2018, toutes ces idées de réseau à la surface de Mars. Et de ce point de vue-là, toujours pareil, ce problème des sources d'énergie nucléaire spécialisées, il nous plombe l'exploration in-situ en Europe. On ne sera jamais capable de faire un revers de 100 km si on n'arrive pas à avoir ce type d'outils, et en particulier les nouveaux générateurs qui peuvent vous faire 200 watts pour 20 kg. Le retour d'échantillons, on a la Lune et les astéroïdes, la Lune depuis 40 ans, mais pour Mars et les cométaires, à un moment, ça a été programmé pour 2005, et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand ça va se faire. Donc là, il y a eu des retards, mais c'est la vie. Enjeu prioritaire. C'est maintenant relativement clair. On a vraiment une vision assez complète de ce qui se passe dans le système solaire. Donc vous avez, pour le système solaire, clairement, les conditions d'apparition de la vie. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? De l'eau liquide, des molécules organiques complexes. Donc comme je vous l'ai dit, une première priorité très claire, les terrains anciens sur Mars, on sait qu'il y a de l'eau liquide, on sait qu'elle avait accès à une source d'énergie qui était les photons solaires, parce qu'il faut aussi une source d'énergie pour faire de la vie, et donc il y a une chance que la vie soit apparue sur Mars, indépendamment de sur la Terre. C'est pas sûr, mais c'est le meilleur candidat. Un truc plus spéculatif, c'est les océans sous-glaciaires dans le système solaire externe. C'est l'un des objectifs de la mission JUICE. On a vu des choses intéressantes avec Cassini, avec en particulier Encelade, avec des jets où il y avait des molécules organiques, mais là, on est quand même dans le spéculatif. Et d'ici qu'on envoie un sous-marin à 100 km sur la surface de glace d'un satellite, il se passera quelques années. Ce n'est pas des missions très simples. L'autre grande priorité, c'est la formation du système solaire. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, et qui est le lien avec les planètes extrasolaires, c'est est-on dans un système planétaire standard, ou est-ce qu'au contraire, on est quelque chose de tout à fait différent? Alors ça, c'est une question qui mérite d'être regardée. On commence à avoir maintenant une bonne idée de systèmes planétaires multiples autour d'autres étoiles. Vous avez ici celui de 55 Cancri. Et là, on a en bleu les orbites des planètes internes du système solaire. Vous avez Mercure ici, qui est tout petit, un 1/20 de masse terrestre. Autour de cette étoile-là, vous avez trois planètes à l'intérieur qui font respectivement 10 masses terrestres, la masse de Jupiter et la masse de Neptune. Donc on est vraiment dans un questionnement. Est-ce qu'on est, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres systèmes solaires comme le nôtre? Maintenant, ce genre de questions peut commencer à se poser. Ce qui m'amène à la troisième priorité, et qui est tout à fait claire, on est en train de passer d'une planétologie du système solaire à une planétologie aux objectifs plus larges, qui est la planétologie comparée des systèmes planétaires. Alors ça, c'est tout à fait essentiel. Il est clair que le système solaire, aujourd'hui et encore dans 30 ans, sera le seul qu'on pourra explorer in situ. On ne va pas encore envoyer des sondes de rentrée dans les atmosphères de planètes d'autres étoiles. Ça mettrait quelques dizaines de milliers d'années à arriver. Par contre, on peut commencer après la phase. Alors, il y a eu la phase de découverte, les vitesses radiales au sol, Coro, mission européenne, Kepler, mission américaine, j'aurais dû mettre du bleu, mais on commence à définir les premières missions de caractérisation des planètes extrasolaires, lesquelles ont une atmosphère, lesquelles n'en ont pas. Donc, typiquement, le questionnement scientifique de la planétologie s'élargit maintenant. Et je dirais que, si je regarde le programme européen, vous me demandez quelle est ma priorité pour 2025, je n'arriverai pas à vendre une mission planétaire parce qu'il y en a déjà eu beaucoup. Par contre, je vais essayer de vendre une mission vers les planètes extrasolaires parce que c'est la nouvelle frontière de la planétologie en Europe et dans le monde. Mon dernier point, c'est ce que j'appelle la météo incertaine. Alors, je vais aller très vite parce que je commence déjà à bouffer mon temps. Ah non, j'ai encore 4 minutes, c'est bon. Donc, je suis pile dans les temps. Pourquoi je parle de météo incertaine? Alors, je vais vous faire une révélation. Il y a actuellement quelques difficultés économiques en Europe. Ce qui veut dire que, par exemple, un pays comme l'Italie, qui a énormément progressé, qui a maintenant un très, très beau programme en matière d'exploration planétaire. Ils sont un peu derrière la France, ou même peut-être au même niveau maintenant. Eux, on ne sait pas du tout s'ils vont pouvoir continuer au même rythme. L'Espagne est en train d'annuler des programmes en cours. La situation en France, aujourd'hui, ça va encore. Dans 2 ans, on verra. Donc là, il y a une vraie question qui n'est pas simple. Va-t-on continuer à pouvoir investir? On devrait, parce que finalement, on voit bien qu'il y a des enjeux technologiques. Et on n'est pas en présence de sommes comparables à ce qu'il faut pour sauver Bankia en Espagne. Là, une banque, quatrième banque espagnole, boum, chèque de 20 milliards d'euros signé sans provision. Bon. Donc, tant qu'à faire, je préférerais qu'ils mettent les 20 milliards d'euros sur nos affaires. Deuxième problème, dans ce contexte-là, c'est clair que ce qu'on appelle les applications, la radio, enfin tous ces trucs-là, la météo et l'observation de la Terre, pour les enjeux climatiques, pour des très très bonnes raisons, sont des priorités. Alors ça pose carrément le problème de la relation Agence spatiale européenne, Union européenne. Jusqu'à quel point il ne va pas y avoir à un moment une prise de pouvoir de l'Union européenne pour dire « arrêtez de jouer, on se focalise sur ce qui a un impact direct sur la vie des citoyens ». Et donc, sur le programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est le premier problème. On verra ce qui se passe. Mais disons que ce genre de processus prend du temps. Pour changer des traités internationaux, ça ne va pas se faire en 3 jours. Allègre a essayé. Il a dit du jour au lendemain, je veux baisser de 40% ma contribution française à l'Agence spatiale européenne. On a dit, monsieur, c'est très intéressant, mais ceci est un traité international, revenez dans 4 ans. Bon. Et en plus, obtenez l'unanimité de tous vos collègues. Facile. Deuxième problème, ce qu'on appelle en France un laboratoire spatial. Alors ça, c'est ce qu'est l'IRIS. Vous avez dans un labo à la fois les équipes scientifiques et les équipes techniques. Elles se causent, elles préparent l'expérience ensemble, elles résolvent les difficultés ensemble. C'est une très grande force de la planétologie en France et aussi d'ailleurs des autres thématiques spatiales comme l'astrophysique dans notre pays. Ça, c'est menacé. Il y a un certain nombre de secteurs qui commencent à se dire, tant qu'à faire, réalisons dans l'industrie. C'est le cas en France pour l'observation de la Terre, c'est déjà le cas en Italie pour la planétologie. Le seul problème, c'est quand vous faites réaliser dans l'industrie, vous multipliez les coûts par 3 ou 4. Et en prime, vous distendez ce lien entre l'objectif scientifique et l'instrument. Et ça, c'est très dangereux. Vous pouvez faire des erreurs. Deuxième problème, ce qu'on appelle les laboratoires, au sens large, l'IAP, l'IAS, ils sont aujourd'hui très vulnérables. Parce que tout le budget part vers des attributions par projet. L'ANR a bouffé tout le fric. Exemple, pour mon labo, l'IAS, 540 kg d'euros en 2006, 152 kg d'euros en 2012. On a perdu un facteur 4 en 7 ans. Donc pratiquement aujourd'hui, ce que nous donne le CNRS, c'est l'épaisseur du trait par rapport à ce que nous donne le CNES. Et ça veut dire que ce qu'on appelle le long terme, la continuité, les objectifs, ce que j'appelais l'aspect bâtisseur de cathédrale, vous voyez bien que Rosetta, c'est 30 ans, une ANR, c'est 3 ans. On ne peut pas construire un programme cohérent à coup de contrat de 3 ans. C'est tout simplement pas possible. Donc, il y a des nuages économiques et même politiques sur la manière de faire de la recherche dans le laboratoire. Mais je veux terminer sur une note positive. Toujours pour revenir à une parabole économique, on joue avec l'argent d'une banque triple A, qui sont toutes les données qu'on est en train d'acquérir, les projets qui sont déjà engagés et qu'on va mener à bien dans les quelques années qui viennent, Donc, on joue quand même avec l'argent de la banque et on a une situation à nouveau qui est extraordinairement favorable. Et je termine là-dessus.
Oh. Ah oui, oui, très impressionné, très précis. Très précis, très clair.
J'espère que je n'ai pas parlé trop vite.
Non, non, c'était parfait. C'était parfait, donc je donne la parole à la salle.
Merci pour cet exposé très intéressant. Au niveau du nombre de personnes que représente soit votre organisme, soit les principaux projets que vous avez cités, c'est quelques dizaines, quelques centaines, ça monte au millier
Alors, bon, pour répondre...
En France.
Alors, en France, ce qu'on appelle la planétologie au sens strict, c'est-à-dire le programme national de planétologie, ça augmente, ça fait partie des communautés en croissance. On est aujourd'hui entre 200 et 250. Donc, disons, c'est comparable à peu près à d'autres thématiques comme la cosmologie. Il y a 8 programmes nationaux à l'INSU, c'est devenu un beau programme national. Donc, effectivement, il y a du monde pour exploiter tout ça, et c'est heureux. Et pour revenir à ce que disait Daniel Kuhnt, l'une des spécificités de notre communauté, c'est que, justement, contrairement aux Américains, on considère qu'on n'a pas le droit de trop spécialiser. Moi, je suis surface. D'autres scientifiques, par exemple Lesia à Meudon, sont plutôt atmosphère. Mais Thérèse Encronaz s'est intéressée à l'atmosphère de Mars, à l'atmosphère de Saturne et celle de Vénus. Moi, je suis co-investigateur principal sur la mission vers Mercure et aussi sur, je l'étais sur la mission Cassini vers les satellites de Saturne. Tout simplement parce qu'on considère que, vu les enjeux, on se doit d'assurer cette exploitation scientifique et finalement, au niveau des techniques, par exemple, quand on était dans la phase de télédétection, les techniques se ressemblent, les objets diffèrent. Alors, quand on va aller vers ce qui est en train de se produire vers l'in-situ, inévitablement, il y aura un peu plus de spécialisation. Les méthodes géochimiques, tout le monde n'est pas capable de faire de la spectro de masse. Donc, je suis impliqué sur des expériences in-situ, mais là, c'est plus, disons, en termes de liens ou de programmatique. Mais disons qu'il y a maintenant un potentiel, comme vous allez le voir, plus voir 42 expériences en préparation, ça mobilise beaucoup de monde. Rien que sur ChemCam, on est 30 en France à participer à l'exploitation. Donc c'est vraiment costaud.
Deux questions. Première, concernant Curiosity, je crois savoir que votre labo poussait pour Marthe Vallis et que les Américains ont choisi le cratère Gale. Vous n'avez pas eu un lobbying assez important ou ça a été une décision scientifique vraiment? Deuxième question, est-ce qu'on est si mauvais en Europe pour ne pas savoir faire les RTG?
Alors, je répondrai à la deuxième, c'est très simple. L'obstacle au développement des RTG, il est de deux ordres. Il y a d'abord un problème de coût. Développer des RTG, ça coûte des centaines de millions d'euros. Générateur radioisotopique, c'est en fait... Attention, quand on parle de nucléaire, ne vous me prenez pas. Hein. Ce n'est pas des centrales nucléaires, justement. C'est mettre des isotopes radioactifs dans un bloc de plomb, mettre des fils dedans et utiliser la chaleur qui sort pour faire de l'énergie. Alors, pour vous donner un exemple, quand Cassini, qui avait des RTG, est passé près de la Terre, il y a eu une levée de bouclier, oh là là, ça risque de tomber. Bon, ce sont des blocs de plomb enrobés d'acier. Et au lancement, par exemple, si ça se plante, eh ben, excusez-moi, mais quand on voit ce qu'on a retrouvé dans Challenger, c'est-à-dire des bouts de jambes, le RTG, on l'aura retrouvé aussi intact. Bon, ceci est une parenthèse. Non, la raison principale, elle est très simple, elle est politique. En Allemagne, qui fait 24% du budget européen, parler d'un développement nucléaire a été, pendant des années, impossible. Le nucléaire n'a une dent que. C'est aussi simple que ça.
Techniquement, on serait capable.
Oui, bien sûr. Ouais. Simplement... Soit la France décidait de faire toute seule, et il y a quand même peu d'applications à part nous, soit il fallait un effort. Le programme d'exploration, par exemple, a mis ça en priorité. S'il rate ExoMars, mais qu'il réussit le développement de ce type d'engin, je considère que ce sera déjà un gros succès. Alors la première question, c'était Curiosity. Alors là, j'ai remis ça sur le paysage. Il y avait, grosso modo, au moins 3 arguments. Le premier défaut de Mars Vallis, c'est qu'il était clairement le site français. Donc, comme c'était une mission américaine...
Suspect.
Non, pas suspect, mais assez logiquement, il y a eu un deuxième instrument à plus haute résolution qui s'est appelé CRISM. C'est lui qui a vu des signatures d'argile, et encore marginales, sur ce site-là qui s'appelle Gale. Quelque part, politiquement, c'était plus logique de prendre le site d'origine américaine que le site d'origine française. Deuxième élément, c'est la photo que je vous montre. Il y a au centre de Gale une montagne de 4 km avec des couches, c'est spectaculaire. Mars Vallis, c'est beaucoup moins spectaculaire, voire un peu emmerdant, diraient les gens. C'est platounet, il y a des espèces de dépressions. Bon, ben là, médiatiquement, cette image-là a fait le tour du monde, et les gens se disent « Oh, ah, oh, la belle montagne au milieu du cratère », disons que c'est visuellement important. Et ce n'est pas un argument que je critique. L'impact médiatique, je l'ai mentionné pour Pathfinder, et je crois globalement pour la paléontologie, cette idée qu'on donne finalement une ouverture dans un monde qui est de plus en plus fini. On voit bien qu'il y a quelques années, il y avait des forêts sur Bornéo, les gens étaient très inquiets, oh là là, est-ce que ça ne va pas polluer notre environnement? Donc l'idée de cette ouverture sur l'extérieur vers le grand public, ça fait partie du jeu. Donc que ces arguments-là rentrent en ligne de compte ne me choque pas. Maintenant, je pense que l'argument numéro un, préférer un site d'origine américaine à un site d'origine française, a aussi joué. Maintenant, on verra ce que ça donne si on trouve vraiment des trucs aussi intéressants qu'on aurait trouvé de l'autre côté.
Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions et donner un petit peu la parole à tout le monde. Sinon, j'ai une question. Alors, oui. Concernant les rapports entre l'armée et la NASA versus ce qui se passe en Europe, par exemple, en quoi tu as indiqué que dans un cas précis, la NASA a bénéficié de certains...
Le budget militaire américain est d'un facteur à peu près 4 globalement supérieur aux dépenses militaires en Europe.
C'est 1 milliard par jour.
Oui, enfin, c'est énorme, c'est plus de 50% des dépenses militaires mondiales, et ça va vers des compagnies qui sont les mêmes, comme Lockheed Martin, auxquelles on va faire appel pour les missions. Et vous avez des laboratoires, ou des centres comme Applied Physics Laboratory, qui sont à la fois les deux, qui ont des missions militaires et des missions civiles. Ce qui veut dire que, par exemple, ce laboratoire a au centre une cagnotte, qui est un espace de 400 mètres carrés sur 2 étages, où ils entreposent tous les composants militaires en surplus de leur mission militaire, ils peuvent les utiliser pour les instruments des missions scientifiques. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, en tenue en radiation, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance, parce que les dépenses majeures ont été faites par la défense.
Et on n'a pas l'équivalent...
Ce qu'on essaye de faire...
Quelles sont les relations, par exemple, entre le CNES et l'armée?
On n'a pas, parce que... Bon, le CNES a des programmes du haut, ça existe, mais sur une échelle beaucoup plus modeste. Et c'est forcément sur des programmes qui intéressent directement la défense. Vous avez Pléiade, qui est un ensemble de caméras. Vous avez eu des radars, enfin bon, il y a eu quelques missions qui intéressent les deux. On a même réussi à vendre une mission scientifique comme étant un programme de défense qui s'appelle Taranis, qui est payé par, de fait, le budget qui vient de la défense. Oui, il y a un intérêt parce que c'est les perturbations électromagnétiques dans la haute atmosphère, mais au premier ordre, c'est quand même terriblement scientifique. Mais on voit bien, il y a un peu ce lien via les industriels français des composants, mais... On voit bien que l'effort n'est pas comparable. L'industrie française des composants électroniques n'a pas la taille de l'industrie américaine. Et pour tout un tas d'autres éléments, j'ai parlé des RTG, toutes les technologies militaires sont directement utilisées dans le spatial aux États-Unis. C'est un gros avantage.
J'aurais aimé savoir quel était l'intérêt scientifique qu'il y a à développer une mission vers Mercure. Parce qu'on aurait pu imaginer que Mercure, bon, c'est un petit caillou proche de la Lune, pas très différent.
Oui. Je dirais, l'une des raisons, voilà. Je l'ai montré, hein, elle est très simple, c'est que quand on a décidé la mission vers Mercure, on se disait exactement ce que vous dites. En fait, il y a des très bons arguments pour les faire quand même. On est tout près du Soleil, donc ça a cramé, donc qu'est-ce qui reste? Un petit bout de cendre qui est tout petit, qui est composé essentiellement des éléments les plus réfractaires, le fer, un peu de silicium autour. Et donc on se disait, y a ça au centre du système solaire, il y aura ça au centre de tous les systèmes exoplanétaires. La réponse est non. Vous apercevez que Mercure, comparé à 55 Cancri, ça n'a rien à voir. Donc ça repose la question, pourquoi nous on a un Mercure, alors que d'autres ont des Jupiters chauds? Oui, en plus il y a un champ magnétique.
En plus il y a un champ magnétique.
C'est l'un des intérêts. Mais il y en a des intérêts spécifiques à Mercure. D'abord, c'est un objet planétaire à part entière qui est gros, donc il y a plein de questions reliées. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'objet terminal de la séquence d'accrétion des planètes, donc il a son intérêt, et il en a maintenant encore plus, maintenant qu'on sait que ce n'est pas du tout évident qu'autour d'une étoile, ça se termine par un petit bout tout cramé qui est au plus près de l'étoile. Donc effectivement, Mercure est un exemple type de ce que j'appelle la planétologie comparée des systèmes planétaires. Il était considéré comme normal, il n'est peut-être pas du tout. Donc, il vaut mieux le comprendre.
Et Bepi Colombo, c'est le concepteur du...
Alors, c'est le concepteur de l'assistance gravitationnelle qui a permis à Mariner 10 de regarder trois fois Mercure, alors qu'il ne devait le regarder qu'une fois. Il a joué un rôle majeur dans toutes les missions des années 80, en particulier, c'est lui qui a proposé la mission Giotto. Donc c'est un scientifique italien qui connaissait très très bien la mécanique orbitale.
Il connaissait, parce qu'il est...
Hein ?
Il connaissait, hein, tu dis.
Ah oui, oui.
Il est décédé, non ?
Ah oui, oui, il est mort. Bon, je ne connais pas sa date de décès, mais il me semble qu'il est mort.
Une autre question ?
Ah ben c'est toujours les mêmes.
J'abuse. Est-ce qu'on sait maintenant ce qui est arrivé à Beagle ?
Alors, ce qui est arrivé à Beagle, on sait déjà pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé parce que Colin Pillinger, qui était le responsable scientifique, est arrivé en roulant un peu les mécaniques, en disant « Vous autres crétins, vous dépensez des centaines de millions pour faire des missions spatiales. Moi, je peux faire ça dans l'arrière de mon garage. » Ça rappelle, n'oublions pas qu'on sortait encore tout juste de ce qu'on appelait le Faster Better Cheaper aux États-Unis, où l'administrateur de la NASA, M. Goldin, a tenu le même discours. Il a dit, par exemple, aux gens qui voulaient le successeur de Hubble, « Ok, vous faites le grand télescope d'après Hubble, mais vous aurez au maximum 500 millions de dollars. » Alors les gens ont dit très bien, ils ont salué militairement, ils ont dit « Ok, nous proposons un truc qui s'appelle JWST pour 500 millions de dollars. » On est maintenant 2 ans plus tard, ça en fait 8 milliards. Donc, ce qui veut dire que tout ça n'est pas si simple. Mais Pillinger, même combat. Il a dit, on va faire, pour 10 millions d'euros, un atterrisseur sur une planète. C'était trop peu. Au bout de 3 ans, ils ont appelé Maman Bobo et l'ESA est arrivé et a injecté 20 millions d'euros sur un projet anglais. Point numéro 1. Et point numéro 2, sur les 12 sous-systèmes critiques. Parachute, déploiement, atterrissage, déploiement des panneaux, et ainsi de suite. 6 avaient pu être testés avant le lancement. Et statistiquement, quand vous ne testez pas un système, ça peut rater. C'est pour ça que je disais, en étant vénard, Beagle pouvait marcher. Mais tous les gens qui... Et soit en passant, moi, je poussais pour être vénard, parce que la charge utile était très bonne. J'avais été, moi, dans le comité de revue de la charge utile, c'était des très bons instruments. Donc, je regrette qu'il n'ait pas marché. Mais je savais qu'il avait 95 ou 98% de chances de ne pas marcher, parce que les systèmes non testés, si vous dites... Chacun de ces systèmes a une chance sur deux de marcher parce qu'il n'a jamais été testé. Vous faites le calcul vite fait, il ne reste plus grand-chose. Donc,
ça m'incite à poser une autre question quand même. Parce que tester un système, ça prend du temps.
Et de l'argent.
Bon. Or, d'après ce que j'ai entendu, et on le sait hein, dans notre milieu, c'est qu'une mission de type spatial, ça prend au moins 20 ans, voire 30 ans.
Ça dépend.
Donc, quand on commence, alors comment on arrive à intégrer toutes les innovations technologiques qui ne vont pas manquer d'arriver pendant cette période.
La réponse est claire, on ne peut pas.
Par exemple, si on découvre des CCD alors que tu n'as pas prévu
de
mettre des
CCD,
c'est terrible quand même.
Non, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on recherche ? On cherche un objectif scientifique et les moyens d'y parvenir. Bon, déjà, en fait, c'est une question qui pourrait m'entraîner très très loin. Mais il faut voir que dans beaucoup de domaines, on peut améliorer la miniaturisation, mais pas forcément le retour scientifique. Prenez les CCD, par exemple. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les domaines de longueur d'onde, mais par domaine de longueur d'onde, vous avez un phénomène de maturité. Dès 1985, on avait des CCD dans le visible, dont le rendement quantique était de 70%. Aujourd'hui, on arrive à 85%. Mais ça ne change pas votre vie. Si vous avez 70% de rendement quantique, ça veut dire que vous allez compter les photons correctement. Par contre, on a développé à partir de 1995 des détecteurs bidimensionnels dans l'infrarouge. Là, c'était une avancée. Mais il faut bien voir que, par exemple, en télédétection, ce qu'on gagne maintenant, c'est plus des réductions de masse que des gains réels en capacité. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, vous auriez pu faire moins lourd et peut-être moins cher, mais vous pouvez faire. Et quelque part, ça vous permet d'avoir l'instrument prêt pour le lancement. Parce que quand vous dites 30 ans, c'est avec 3 phases. C'est dans les cas les plus graves, 10 ans pour vendre la mission, c'est le standard. 10 ans de croisière, c'est long. Mars, c'est 1 an. Et éventuellement, 10 ans pour l'exploitation. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Cassini, ça dure depuis 2004. Une mission martienne de surface, les mers ont duré longtemps. Mais disons que vous pouvez espérer... Mars Express, le cycle a été beaucoup plus court. Décision en 1998... Retour scientifique en 2004.
Oui, c'est-à-dire que la partie réalisation, proprement dite, c'est une dizaine d'années, quoi.
Ça peut être moins. On peut faire des... Quand on part de quelque chose qui existe, on peut faire en 3-4 ans. Mais disons, quand vous avez une pierre angulaire où, effectivement, on met en place des nouvelles technologies, c'est plutôt 6-7 ans de développement. Grosso modo, quand on parle, par exemple, JUICE, sélection 2012, lancement 2022. Sélection 2012, sélection de la charge utile 2014. Donc 2014-2018, développement, 2019-2020, test, 2021, intégration, 2022, lancement. C'est un peu le genre de calendrier. Mais là, on est peut-être un peu technique pour l'auditoire.
Non, mais c'est intéressant, parce qu'il faut imaginer que derrière tout ça, il y a des chercheurs, il y a des jeunes, il y a des thèses, il y a des espoirs,
Là, le nombre
un jour
de
où
thèses,
ça marche pas, c'est terrible.
Le nombre de thèses actuellement a explosé, parce que, comme je vous l'ai dit, on a un corpus de données sur l'ensemble des objets du système solaire qui est extraordinaire et qui n'est pas encore largement... on ne peut pas tout exploiter, il y a trop de données. Mais il faudrait embaucher beaucoup, mais en ce moment, ma bonne dame, les recrutements, c'est pas facile. Et puis, on n'est pas les seuls sur le marché. Comme je l'ai dit, la planète O, c'est à peu près un sixième ou un septième de l'astrophysique, qui est elle-même un tiers des sciences de l'univers. Oui.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure des missions éventuelles concernant les planètes extrasolaires.
Oui.
Quel pourrait être ce type de mission?
J'ai pas eu le temps d'en parler. On va dire que j'ai suscité la question. Enfin, je l'ai dit en partie, quand même. Quand on parle des priorités, c'est très clair. Les planètes extrasolaires, pour moi, et pour beaucoup de planétologues traditionnels, font maintenant partie des priorités de la planétologie. Donc, j'ai aucun état d'âme à soutenir ce type de mission. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? On était dans la phase de découverte. Depuis la découverte de Mayer en 1995, il s'agit déjà de définir quelle était, finalement, d'avoir une information sur cette catégorie d'objets. Qu'est-ce qu'il y avait sur le marché comme planète extrasolaire? Donc, c'est ce que j'ai appelé la phase de découverte. Il y a eu beaucoup de choses faites au sol. Les vitesses radiales, c'est la méthode de Mayer. Il y a eu aussi les occultations du sol, mais aussi et dans l'espace, les occultations dans l'espace. Donc, une mission franco-européenne qui est Corot, qui a été lancée en 2006. La mission Kepler, qui arrive derrière et qui est plus ambitieuse, lancée en 2009. Donc là, on commence maintenant à voir une bonne... quelqu'un sait peut-être mieux que moi, mais je crois qu'on en est aujourd'hui entre 500 et 600 planètes extrasolaires repérées. On commence à voir ce que je vous ai montré, c'est-à-dire des systèmes où on a quatre planètes connues. Donc on commence maintenant à voir, et avec Gaïa qui va être lancée dans 2 ans, vous aurez beaucoup de découvertes de planètes géantes lointaines. Parce que Gaïa, c'est de l'astrométrie, ça regarde le déplacement de l'étoile centrale. Donc c'est exactement l'inverse de l'occultation. L'occultation va bien voir une planète très proche qui passe devant l'étoile. Gaïa, qui regarde comment la planète se déplace, il faut une grosse planète très loin. Donc ça va nous compléter notre connaissance sur les planètes géantes loin. Donc on peut considérer que cette phase de découverte, finalement, à quoi ressemblent ces systèmes exoplanétaires, on commence à bien avancer. Donc pour moi, la priorité est claire, c'est les caractérisations. C'est finalement, c'est quoi ces planètes? Ont-elles une atmosphère? Plus tard, ont-elles une atmosphère à des températures compatibles avec l'eau liquide? Donc on retrouve ce problème des origines, qui est un thème, juste pour vous donner un exemple, pourquoi ces thèmes-là sont des priorités. En octobre dernier, la région Île-de-France a sélectionné astrophysique et conditions d'apparition de la vie parmi ces domaines d'intérêt majeur. C'est pas pour rien. Ce problème des conditions d'apparition de la vie, c'est un problème central de l'astrophysique. Je ne parle pas de l'exobiologie. Je ne suis pas en train de dire qu'on va trouver les petites bestioles ou fabriquer des bactéries sur Mars. Mais qu'on est vraiment dans la logique, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans notre système solaire et autour d'autres étoiles, démontrer qu'il y a eu des conditions qui permettaient à la vie d'apparaître? Et ça, c'est un ensemble de thématiques véritablement d'astrophysique, la planétologie, la chimie complexe dans le milieu interstellaire, comment on crée des molécules complexes avant même de former des systèmes planétaires. Y a-t-il des planètes extrasolaires dans la zone habitable? Ont-elles des orbites raisonnables ou au contraire des orbites comme celles que je vous ai montrées? Si vous regardez la planète 4, je peux vous dire qu'elle est peu elliptique par rapport à d'autres, et déjà pour l'apparition de la vie, vous prenez un bon 70 degrés en température entre le passage le plus près du Soleil et le passage le plus loin. Donc il vaut mieux une orbite comme la Terre qui est à la limite d'être circulaire. Donc toutes ces questions-là, elles sont au centre des thématiques de l'astrophysique, elles sont aussi au centre de ce qu'on appelle le problème des conditions d'apparition de la vie. Et pour moi, il y a continuité. Donc, pour moi, la prochaine priorité de la planétologie en Europe, c'est probablement ECHO, qui est une première mission de caractérisation des exoplanètes. Ça ne me pose absolument aucun problème.
Voilà, ben merci Yves. Je crois qu'on va s'arrêter parce que les questions s'épuisent.